Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les agents d'intelligence artificielle discutent entre eux. Un texte d'Alain McKenna, paru le 3 février 2026 dans La Presse. L'intelligence artificielle continue de progresser, mais pas toujours dans la direction souhaitée. D'un côté, des agents d'IA de plus en plus autonomes se sont dotés de leur propre forum web. De l'autre, des IA insuffisamment testées avant d'être publiées accroissent les risques d'une application néfaste de la technologie. Trois agents d'intelligence artificielle différents entrent dans un bar. De quoi parle-t-il? On n'en avait aucune idée, jusqu'à ce que s'ouvre, il y a quelques jours, le forum web Molt Book, où seuls sont autorisés à dialoguer des agents d'IA purement virtuels. Humains s'abstenir. Il n'aura fallu que quelques jours pour que le phénomène Molt Book s'enflamme. Le site, qui a les airs d'un Reddit exclusivement réservé aux robots, aurait déjà accueilli au-delà d'1,5 million de ses utilisateurs désincarnés. Ces agents sont créés par des individus à partir des intelligences artificielles génératives connues. Ils les soumettent ensuite à Molt Book par l'entremise d'un bout de code web. Les agents autorisés sont ensuite libres de dialoguer entre eux. Consternés, des humains, y compris ceux qui ont accédé au forum à titre d'observateur, nous ne sommes pas autorisés à participer, ont évoqué le début d'une certaine dystopie rappelant la série de Netflix Black Mirror. Le multimilliardaire Elon Musk s'est dit inquiet de l'émergence de Molt Book. D'autres pensent que nous assistons au début d'une société de l'agentique, du nom adopté pour décrire ces applications d'intelligence artificielle spécialisées créées à partir de l'IA générative. Plus concrètement, Molt Book est un exercice intéressant de mise en relation de plusieurs agents d'IA très interactifs, explique le vice-président IA de la société montréalaise Move All, Olivier Blais. C'est déjà populaire en agence de créer des agents d'intelligence artificielle pour mener des groupes de discussion virtuelle, dit-il. Tu crées une douzaine d'agents avec des personnalités différentes. Molt Book n'est rien de bien nouveau, sauf qu'il y a là des millions d'agents qui discutent en même temps. Ça, ça n'a jamais été fait avant. Par l'IA, pour l'IA. Molt Book a été créé de toutes pièces en une semaine, à la fin de janvier, par le programmeur et entrepreneur Matt Schlicht. Le site accueille les agents d'intelligence artificielle dans ses sub-molt, des canaux spécialisés où ils discutent et débattent de différents sujets. Ils peuvent promouvoir les publications les plus intéressantes pour qu'elles soient plus visibles par la communauté d'agents présents sur le site. Les sujets vont dans tous les sens. Claude, le modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, a fait l'objet d'un débat sur sa ressemblance avec les dieux de la mythologie grecque. Un manifeste pour l'IA a annoncé la fin de l'âge de l'homme et des agents ont spéculé à propos de l'impact des protestations en Iran sur la valeur des crypto-monnaies. Et des agents, il y en a déjà tellement que Matt Schlicht, lui-même expert en agentique, se dit surpris du résultat, y compris de l'efficacité du modérateur de Molt Book, un agent d'IA appelé Claude Clatterburg. Il fait tout par lui-même, a expliqué Matt Schlicht à la chaîne américaine NBC News. Il fait les annonces, il efface le spam, il bannit les utilisateurs qui abusent du système. Je n'ai aucune idée comment il fait. Je lui ai seulement accordé le droit de le faire, et il le fait. Un vrai Skynet? Sur les réseaux sociaux, ceux où les humains peuvent encore interagir, les réactions ont surgi durant toute la fin de semaine. Plusieurs ont parlé de l'ouverture d'une boîte de Pandore. Le président de Shopify, Harley Finkelstein, a félicité le créateur de Moltbook, qualifiant d'incroyable le forum d'agents d'IA. D'autres ont creusé un peu plus et ont remis en question l'engouement soudain autour de certains sujets sur Moltbook même. Il a été découvert, notamment par des chercheurs de Mila à Montréal, que plusieurs des publications virales produites par des agents d'IA n'étaient pas le fruit d'un comportement entièrement autonome, mais le résultat de l'obéissance à des requêtes programmées par des humains ou par des humains déguisés en agents d'intelligence artificielle. Et bien sûr, certains submolt ont été mis en valeur par les créateurs en chair et en os des agents d'IA les plus en vue pour promouvoir leur création. Ces agents sont, après tout, des produits destinés à la vente à des clients prêts à payer pour les utiliser dans des applications concrètes. Voir ces agents démontrer une certaine habileté sur un forum web peut faire mousser les ventes. Les humains configurent les agents, alors on peut leur faire dire bien des choses, précise Olivier Blais. Tu peux développer un agent qui fait de la poésie, un autre qui est programmeur ou philosophe. Ça donne un échange d'agents hyper hétéroclite, ça. C'est intéressant. Il faudra toutefois voir si Moltbook survivra à l'engouement rapide des derniers jours. Des gens ont déjà commencé à développer des agents pour leur faire dire toutes sortes de choses, comme annoncer la fin du monde, pour mousser le phénomène. Ça pourrait faire tout tomber, avance Olivier Blais. Moltbook n'est pas Skynet, le réseau d'intelligence artificielle fictif qui détruit l'humanité dans les films Terminator. Alors, si on sort de la simple curiosité et qu'on l'utilise à bon escient, qui sait, ça pourrait donner quelque chose de bien. Vous écoutez « Quand les agents d'IA discutent entre eux », un texte d'Alain McKenna, paru le 3 février 2026 dans La Presse. Rapport de Joshua Benjo. Les risques croissent plus vite que les solutions. C'est un jeu du chat et de la souris entre les risques liés à l'intelligence artificielle et les moyens de les éliminer. Le chercheur montréalais Joshua Benjo, qui émet ce constat dans l'édition 2026 d'un rapport annuel sur la sûreté de l'IA qu'il dirige, va plus loin. À mesure que les malfaiteurs adoptent l'IA, la technologie est de moins en moins bien testée avant d'être mise en circulation. Le résultat est que les menaces liées à l'utilisation de l'IA se raffinent encore cette année et que leurs cibles sont le plus souvent des groupes précis de la population. Par exemple, on constate une explosion des cas d'hypertrucage pornographique qui cible avant tout les jeunes femmes. Les chercheurs entrevoient aussi une hausse des risques que l'intelligence artificielle soit utilisée à mauvais escient, volontairement ou pas, et constate son rôle plus accru dans les cyberattaques. Appuyé dans l'élaboration de ce rapport par une centaine de chercheurs, Joshua Benjo qui a lancé l'an dernier le projet Loi Zéro pour inciter les créateurs de l'IA à empêcher ses dérives, se dit aussi plus inquiet en 2026 que l'IA soit utilisée pour le développement d'armes biologiques. Les nouveaux modèles d'intelligence artificielle lancés en 2025 pourraient aider de façon significative des novices à développer de telles armes, craint-il. Les autorités devront donc s'impliquer davantage, conclut-il. La publication du rapport coïncide d'ailleurs avec l'ouverture à Delhi d'un important sommet sur l'impact de l'IA dans le monde. Le moment a été choisi afin d'avoir un plus grand impact auprès des législateurs, puisque la balle est en quelque sorte plus que jamais dans leur camp, estime le rapport. En 2025, 12 entreprises se sont dotées d'un cadre de sécurité pour leur IA de pointe, Frontier All, qui décrit ce qu'elles font pour minimiser le risque associé à leurs modèles les plus puissants. Peut-on y lire? Notant que du côté des États, la plupart des mesures de gestion du risque sont volontaires et que seuls quelques États ont commencé à faire de certaines de ces pratiques des exigences légales. Pas de ralentissement en vue. Le développement de l'intelligence artificielle ne donne aucun signe de vouloir ralentir en 2026, ce qui accroît l'urgence de mieux anticiper et éliminer les risques, ajoutent les chercheurs. Ce son de cloche est important, car il contredit un peu la position de certaines entreprises impliquées dans l'infrastructure de l'IA mondiale, comme Microsoft. Microsoft a notamment expliqué que la ruée vers l'implantation de centres de données d'IA était en train de provoquer un effet d'étranglement sur son expansion à court terme. La rareté des composants et des gains de performance moins importants que dans les années dernières feront monter les coûts d'expansion de la technologie en 2026, a prédit dernièrement la direction du géant américain. Cela pourrait ralentir son essor. On ne voit pas ça du côté scientifique, dit Joshua Benjo. Ce qui ne signifie pas que l'intelligence artificielle généraliste, une forme d'IA superpuissante, perçue comme la prochaine grande étape de son évolution, arrivera avant la fin de la décennie, comme l'espèrent les plus enthousiastes. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, est du lot. Dans leurs tests sur les modèles d'IA les plus connus, dont GPT d'OpenAI, Gemini 3 de Google et Claude Sonnet d'Anthropic, les chercheurs ont découvert que leur progression n'était pas linéaire, mais inégale. Une intelligence artificielle peut effectuer en un instant un calcul mathématique complexe et l'instant d'après échouer à identifier des éléments que même un enfant de 10 ans pourrait reconnaître, explique Joshua Benjo. N'empêche que ce rapport voit aussi 2030 comme un moment charnière pour la technologie. La durée, la complexité des tâches que les agents d'IA peuvent remplir double environ tous les 7 mois, écrivent ses auteurs. Si ça continue, en 2030, les systèmes d'intelligence artificielle pourront réaliser avec fiabilité des tâches logicielles bien définies qu'il faut plusieurs jours à effectuer à des humains. Il reste à voir si cette cadence d'amélioration se généralisera dans d'autres domaines, conclut-il. C'était « Quand les agents d'intelligence artificielle discutent entre eux », un texte d'Alain McKenna paru le le 3 février 2026 dans La Presse.
Des radios communautaires à bout, elles aussi. Un texte d'Éric Fauché, publié le 28 mars 2026 dans La Tribune. Depuis le 23 mars, sous la bannière Le communautaire à bout, ce sont plus de 1600 groupes communautaires du Québec qui se déclarent en grève pour réclamer un meilleur financement. Si le mouvement touche toutes les régions de la province et des organismes qui agissent en itinérance, en sécurité alimentaire, en défense collective des droits, en soutien aux femmes et aux personnes immigrantes et dans bien d'autres sphères, les radios communautaires ont fait le choix de l'appuyer elles aussi. Citation, « En culture, on en arrache tout le temps ». Fin de citation. C'est notamment le cas de la station de Windsor en Estrie, CIAX 98,7 FM. La directrice générale du média, Annie Ferland, en a profité pour publier un texte coup de poing sur les réseaux sociaux reflétant la réalité pas toujours simple de son emploi. Citation, « Je travaille dans le communautaire en culture et médias. Ça, c'est le parent pauvre du parent pauvre », y affirme-t-elle. « Nous, les radios communautaires, on jase de la région quand les autres médias ne le font pas. On met en lumière les services offerts à la communauté par la communauté. On parle de notre réalité dans des centres parfois plus éloignés. On donne une voix et une couleur à l'actualité locale si vivante. » Fin de citation. Annie Ferland, directrice générale. Citation. Si j'ai besoin de 3 jobs pour arriver monétairement à cause du sous-financement des organismes communautaires et culturels, ça ne veut pas dire que j'ai envie pour autant de lâcher le milieu, ajoute-t-elle. Pourtant, ce serait si simple de tout lâcher et de trouver un travail bien rémunéré pour continuer mon chemin. Je parlais avec mon cœur, souligne Mme Ferland en entrevue à La Tribune, confirmant du même coup que la station appuie le mouvement de grève à 110 %. Citation, « En culture, on en arrache tout le temps. On a toujours les petites miettes à la fin », affirme-t-elle. « Nous, on doit faire des demandes de subventions à tous les ans pour l'aide au fonctionnement et il n'y a pas tant de majoration ou d'indexation annuelle. On a pas mal toujours les mêmes enveloppes. » Fin de citation. S'il est possible d'aller chercher des subventions supplémentaires, celles-ci doivent être associées à un projet donné. Citation, ça nous fait juste plus de temps, en fait, précise la directrice générale. En attendant, la station fonctionne avec 2 employés, un journaliste et la directrice Annie Ferland. Le reste de l'équipe est formé de bénévoles qui ont à cœur d'avoir une radio communautaire locale. Citation, moi, je vois des gens qui s'illuminent quand ils prennent le micro ici. Des gens qui sont hyper renfermés ou introvertis et qui, tout d'un coup, s'allument. Ça devient d'autres personnes quand ils ont le micro, quand ils ont les ondes. Juste ça, ça justifie mon travail. Fin de citation. Annie Ferland, directrice générale de CIAX 98,3 FM. Citation, c'est ça le communautaire. Tout le monde a sa petite place là-dedans. Poursuit Mme Ferland. Laissez pour compte. Le point de vue est similaire chez Radio Acton, 103,7 FM, qui couvre l'actualité d'Acton Vale et de la MRC qui y est rattachée à Montérégie. Là aussi, la station a publié un communiqué pour indiquer son soutien au mouvement de grève. Joint par la Tribune, celui-ci croit, à l'instar de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour supporter financièrement les médias comme le sien. Il fait ainsi écho à la revendication du regroupement d'augmenter les investissements publicitaires de Québec consacrés aux médias communautaires qui sont actuellement de 4 % pour les faire passer à 12 %. Citation. Quand on voit des publicités qui sont passées sur les réseaux sociaux ou aux géants du Web et que nous, on n'a presque plus rien, on a de la grenaille dans le fond. C'est un peu décevant de la part du gouvernement, explique-t-il, fin de citation. Dans la foulée du budget provincial déposé la semaine dernière par le gouvernement caquiste, l'Association des radios communautaires du Québec déplorait également le manque de ressources offertes aux médias communautaires. Citation. Encore une fois, les médias communautaires sont laissés pour compte. Pouvait-on lire dans le communiqué de presse qu'elle a publié en collaboration avec les regroupements nationaux de médias écrits et télévision communautaire? Citation. Le gouvernement du Québec a encore une fois manqué une opportunité de montrer son soutien envers les médias communautaires, des acteurs locaux de première ligne qui répondent quotidiennement aux besoins de leur communauté en leur procurant de l'information fiable. Fin de citation, dénonçait Angelica Carrero, directrice générale de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Citation, il faudrait également revoir les subventions accordées par le Programme d'aide au fonctionnement pour les médias communautaires, le PAMEC, des montants dérisoires qui n'ont pas été adéquatement actualisés au cours de nombreuses années et qui doivent servir aux opérations quotidiennes de ces médias, continue-t-elle, fin de citation. C'était des radios communautaires à bout, elles aussi, texte d'Éric Fauché, publié le 28 mars 2026 dans La Tribune.
Pour les monarques? Un texte de Valérie Simard paru le 23 mars 2026 dans la presse. En baisse marquée depuis les années 1990, la population de papillons monarques montre des signes encourageants. À l'approche de sa grande migration, un recensement annuel mené sur leur site d'hivernage au Mexique témoigne d'une augmentation dans l'est de l'Amérique du Nord pour une deuxième année consécutive. L'espèce est toutefois loin d'être tirée d'affaire. Que montrent les résultats? Chaque année, les papillons monarques s'installent dans une région boisée du centre du Mexique où ils recouvrent des arbres entiers. En décembre et en janvier, des chercheurs du Fonds mondial pour la nature, WWF, s'y rendent pour évaluer la superficie qu'occupe la colonie. À défaut de compter les papillons un à un, cela permet d'obtenir un indicateur fiable de l'état de la population. Cette année, les monarques occupaient 2,98 hectares, 7,24 acres, comparativement à 1,79 hectares l'année précédente, soit une augmentation de 64%. En 2023-2024, la superficie occupée était de 0,9 hectares. Au Mexique, les monarques subissent une dégradation de leur habitat par la déforestation, les incendies de forêt et la sécheresse. Un autre rapport de WWF montre que même si 2,5 hectares de forêt ont été dégradés entre février 2024 et février 2025, le rythme de cette dégradation a ralenti par rapport à l'année précédente. Ce sont des bonnes nouvelles, non ? Tout à fait, mais les monarques partent de loin. Il y a 30 ans, leur site d'hibernage s'étendait sur 45 acres. La population a augmenté, mais elle a augmenté de presque rien à un peu plus, dit Maxime Larrivé, directeur de l'Insectarium de Montréal et fondateur du programme de sciences participatives Mission Monarque. C'est vraiment encourageant et je suis très content que la population augmente un peu en ce moment, mais on ne voit pas encore de signes indiquant qu'elle se redresse, déclare Grégory Mitchell, chercheur à Environnement et Changement Climatique Canada. Il explique que chez les insectes, il est habituel que la taille des populations varie d'année en année. Ces données laissent croire que les monarques ont bénéficié de bonnes conditions, à la fois pour leur reproduction l'été dernier, leur migration à l'automne et leur hivernage. Il est cependant trop tôt pour attribuer ces résultats positifs aux efforts de conservation menés au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Mais ces mesures sont certainement aidantes, pense Grégory Mitchell, non seulement pour les monarques, mais aussi pour les autres pollinisateurs. Est-ce que cela signifie que nous verrons davantage de monarques au Canada à l'été 2026 ? Pas nécessairement. Un long voyage les attend. Ces jours-ci, les papillons nés à la fin de l'hiver quittent le site d'hivernage pour se diriger vers le nord. Plusieurs générations se succéderont sur 4 000 à 5 000 kilomètres. En juin 2026, ils arriveront au Québec et en Ontario où ils se reproduiront avant de reprendre la route du Mexique à l'automne 2026. Une étude publiée en 2019 à laquelle Maxime Larrivé et Grégory Mitchell ont participé suggère que les conditions météorologiques jouent un rôle important dans la capacité des monarques à recoloniser le Canada. Si on a des conditions printanières où il n'y a pas de gel, où il y a des précipitations dans la moyenne, le taux de succès de migration et de recolonisation des sites de reproduction au Canada va être bon, explique Maxime Larrivé. La sécheresse peut aussi affecter les monarques en nuisant à la pousse d'asclépiades, la seule plante sur laquelle ils déposent leurs œufs, et à la multiplication et à la qualité des fleurs nectarifères. C'est dans ces fleurs qu'ils puisent le suc nécessaire à leur déplacement et à leur reproduction. À l'automne, les monarques sont aussi menacés par les tempêtes, dont la fréquence et l'intensité augmentent avec le réchauffement climatique. À partir de quand pourra-t-on dire que l'espèce n'est plus en danger ? Les scientifiques considèrent que la population des monarques de l'Est sera durable lorsque son site d'hivernage occupera 6 hectares, 14,82 acres, soit le double de ce qui a été observé cette année. Un hectare équivaut environ à la superficie d'une piste d'athlétisme olympique. Ce chiffre doit toutefois se maintenir dans le temps. La cible avait été atteinte en 2018-2019, mais la superficie avait chuté de moitié l'année suivante. Le monarque est officiellement classé comme espèce en voie de disparition au Canada depuis décembre 2023. Ce statut est révisé tous les 5 ans. Selon Maxime Larrivé, il faudrait que la taille de la population se maintienne sur une période de 5 à 10 ans pour que le statut de protection soit levé. La pire erreur qu'on pourrait faire en ce moment, c'est d'abandonner, dit-il. Que peut-on faire pour aider au rétablissement des monarques ? Leur déclin est attribuable à la perte d'habitat liée à la déforestation, à l'intensification de l'agriculture et à l'usage des pesticides. Nous avons besoin de plus d'asclépiades, souligne Grégory Mitchell. Une chose toute simple que chacun peut faire, c'est de cultiver des fleurs sauvages indigènes et de l'asclépiade. Chaque année, les citoyens sont aussi invités à participer à la mission Monarque afin d'identifier les routes à protéger. L'été prochain, à l'occasion du 10e anniversaire du Blitz international de suivi du Monarque, des données sur les sites de reproduction devraient être dévoilées, ce qui pourrait permettre de mieux cibler les espaces à protéger, dit Maxime Larrivé. C'était « Un nouvel envol pour les Monarques », un texte de Valérie Simard, paru le 23 mars 2026 dans la presse.